J'aimerais faire une lecture avec vous. Alors, je vous avertis, ce n'est pas un texte nouveau. Ça me semble logique. Et c'est des textes qu'on a souvent tendance à lire parce que ça rapporte des histoires qu'on utilise aussi dans le moment où on témoigne. Mais il y a quelque chose de particulier qui m'a interpellé, je voudrais le partager avec vous ce soir. Donc on va lire ensemble dans l'évangile de Luc au chapitre 15, les versets 11 au verset 32. Mais nous nous arrêterons pas sur l'histoire, mais sur la phrase, sur une phrase bien définie du texte. Luc chapitre 15, verset 11 dit, et il dit encore, un homme avait deux fils, c'est Jésus qui parle, hein. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait parti pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel » et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-le-lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales à ses pieds. Amenez-le le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Ils commencèrent à se réjouir, or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il lui répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, jamais je ne t'ai désobéi à tes ordres et moi, jamais tu m'as donné un chevreuil pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère, que voilà, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Amen. Dans toute cette histoire, il y a deux phrases. Une qui est partagée par le fils prodigue, qui revient à deux fois. Et il y a une phrase qui revient à deux fois, c'est celle du père. Alors le fils, finalement rentré en lui-même, il dira, « J'ai péché contre le ciel et contre mon père. » N'est-ce pas ? Deux fois. Mais la phrase qui m'a interpellé, c'est celle du père qui dira, voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Alors, en lisant ce texte, j'avais jamais véritablement fait attention à ces mots. Je les ai considérés, certes, mais je me suis dit, quel parent pourrait considérer son fils mort puisque le fils a quitté la maison. Que le fils se soit égaré, que le fils se soit mal comporté. Le texte ne me dit pas que le père il l'avait retranché autant que fils, il l'avait pas rejeté autant que fils. La preuve en est, c'est que le père attendait que son fils revienne, n'est-ce pas? Mais pour quelle raison il dit, voici, il était mort? Quel parent parlerait comme ça de son fils? Quand on dit que quelque chose est mort, il n'y a plus d'espérance, n'est-ce pas? Alors pourquoi ces mots? Pourquoi ces propos? Alors, certes, Jésus, il nous enseigne sur, pas seulement sur le point moral, familial, mais avant tout sur le point spirituel des choses. Alors, je voudrais vous inviter à voir ce que la parole de Dieu dit par rapport à cette question de mort. Pourquoi le considérer mort? La première lecture que nous allons faire, c'est en Éphésiens, au chapitre 2, les versets 1 au verset 10. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Il dit, pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, et il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous, en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour être pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Pour vivre une résurrection, il faut accepter de mourir. Et là, il est question en effet de mourir deux fois. La première mort, c'est celle qui est liée au péché. Le texte, il dit, pour vous, vous étiez morts par vos fautes et vos péché. C'est une question de mort spirituelle. La relation entre Dieu et le pécheur, excusez-moi, elle est morte. Le pécheur pourrait dans sa vie se targuer d'être enfant de Dieu, mais en réalité, il n'y a plus de relation. Le fils prodigue qui avait quitté sa maison, son père, sa famille, ses amis, même ses serviteurs et tout le reste, avait coupé les ponts. Et à quelque part, il n'y avait plus de relation. Il avait fait un choix qui était celui de vivre autrement. Et vous savez, quand on fait le choix de vivre autrement que ce que Dieu nous demande, si on n'est pas converti, c'est une chose. On est des rebelles, n'est-ce pas? Mais est-ce que est-il possible que tant qu'on fond de Dieu, on puisse faire des choses que Dieu n'est pas d'accord? Alors comment définir cela? Certes, il y a un peu de nature rebelle encore, mais à quelque part, on prend des risques et on tente Dieu. Parce qu'on sait que Dieu nous dit, ne fais pas ça. On est étonné par les paroles de Jésus lorsqu'il fut tenté. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous tentés. Oui ou non? Mais Jésus dira à l'ennemi qui lui proposera de dire, mais écoute, j'ai toi, tu verras, Dieu, il enverra. Il connaissait la Bible, hein, Satan, il connaît la Bible. Donc faites attention à bien connaître la parole de Dieu pour ne pas vous faire arnaquer. C'est un arnaqueur, c'est un menteur. Donc, il est rusé et Jésus, il lui dira, tu ne tenteras point ton Dieu. Il était certain de l'intervention de Dieu. Mais Dieu ne nous dit pas pour autant de nous amuser à jouer excusez-moi, avec les allumettes. Parce qu'à force de jouer avec les allumettes, le feu prend. Et là, dans le texte, il est question de mourir. Et je vous dis, pour moi, pour vivre une véritable résurrection, il faut mourir deux fois. La première, c'est cette mort liée au péché. Mais si on reste de cette mort, on ne peut pas ressusciter. Et au moment où on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faut en réalité mourir une deuxième fois. Pourquoi ? Parce qu'il est question de mourir pour l'ancienne vie que nous avons pratiquée pendant X temps, pour accepter de revivre en Jésus-Christ et ressusciter en Christ. Donc si avant j'étais mort à cause du péché, maintenant je dois décider de mourir au péché pour vivre en Christ. Et c'est seulement à cette condition que je vis une véritable résurrection. Parce que si je dis, ok, je suis mort à cause du péché, mais je ne suis pas prêt à quitter le péché, il ne peut pas y avoir de résurrection véritable. Je ne vis pas une résurrection. Je me trouve, excusez-moi, coincé dans une situation qui me met constamment en conflit déjà avec moi-même. Et l'apôtre, il dit, dans la lettre aux Éphésiens, nous étions morts par nos fautes, mais il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce. Et tant qu'on n'a pas véritablement pris la mesure de cette grâce, on essaie de faire un auto-salut. On essaie de se sauver par nous-mêmes. Hein ? On essaie de grimper sur tout ce qu'on peut. On essaie de nous sortir de la boue en disant « Oui, mais je dois y arriver, je vais y arriver. » Je vais vous dire, on peut faire tous les efforts de ce monde sans le secours et la grâce de Dieu. On ne pourra pas. Et pour recevoir cette grâce, on est obligé d'accepter de mourir à l'ancienne vie. Il n'y a pas le choix. Il est question d'accepter les conséquences de nos propres actes et en même temps de dire de cela, je n'en veux plus dans ma vie. Je ne peux plus être un pied avec le Seigneur et un pied dans le monde. Il y a un moment où on est écartelé spirituellement. Physiquement, moralement, il y a tout qui tourne pas en rond. Et encore une fois, les paroles de ce père, elles sont étonnantes. Voici, mon fils était mort. Waouh ! Il était perdu. Mais il a fallu en réalité que ce fils se retrouve dans cette situation et il a eu besoin de prendre un certain moment, il a pris son envol. Vous savez, quand un oiseau prend son premier envol, des fois ça marche. Des fois un peu moins. Non ? Il y a des fois où ça ne marche pas. Et il a besoin finalement d'apprendre à trouver le moyen de se sortir de la situation où il s'est mis. Il a besoin du secours, il a besoin d'accepter aussi le secours. Il est question dans cette résurrection de tourner le dos à l'ancienne version de soi-même. Parfois, dans les témoignages, on a le sentiment, alors peut-être je me trompe, hein, parfois on a le sentiment de certains témoignages où la personne, excusez-moi, se réjouit des bêtises qu'il a pu faire. Non ? Et moi, je me dis, bon, ok, certes, il y a des bêtises, ils peuvent nous faire un peu sourire, mais ça reste des bêtises, non ? Et tant qu'on ne les voit pas véritablement comme quelque chose qui ne nous élève pas, et qui, en tous les cas, ça n'élève pas notre Dieu, on a tendance à les chérir, parfois même à les ressortir des tiroirs pour nous excuser de notre conduite. Et alors que la parole de Dieu, il nous dit d'agir différemment, tourner le dos à l'ancienne version. Colossiens chapitre 3, verset 1 au verset 8. Colossiens chapitre 3, verset 1 au verset 8. Si donc, vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre. L'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie, c'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortaient de votre bouche. Amen. Il est question d'une véritable résurrection, pas à moitié. Imaginez que quelqu'un ressuscite à moitié. Hein ? Qu'est-ce qu'on fait ? Imaginez le médecin, il se retrouve face à quelqu'un qui y avait déjà un certificat de mort établi. Et la personne ressuscite à moitié. Comment faire un nouveau certificat ? C'est un certificat à 50% ? Est-ce qu'il est plus mort ou plus vivant ? Difficile à régler le problème. Il est question pour nous en réalité de comprendre que la parole de Dieu nous parle d'une résurrection et cette résurrection n'est possible que si véritablement il y a une mort, excusez-moi, profonde et réelle. Parce que dans la partie qui aurait pu ressusciter, c'est laquelle qui a ressuscité ? La bonne ou la mauvaise ? Moi, j'ai toujours eu tendance à réaliser que malgré les combats qui étaient les miens et que je me disais cette partie de ma vie, je dois la mettre à mort, elle avait tendance à ressusciter aussi vite. Et c'est pour cela qu'il a fallu un moment bien précis, non plus compter sur mes forces et dire Seigneur, je me donne à toi. Seigneur, j'ai besoin que toi, tu fasses une œuvre dans ma vie, dans mon cœur, et cette œuvre de Dieu continue jour après jour. On a besoin parce qu'il y a toujours quelque chose de nous, de l'ancienne version, qui a tendance à revenir et qui n'est pas bonne. Ça vous arrive ? Ça vous arrive ? Vous faites quoi alors ? Les ordinateurs, c'est simple. On fait « reset ». Est-ce que vous avez trouvé le bouton pour vous ? Non ? Il n'y a pas de bouton, mais il y a une procédure. Il y a une procédure. Et le fils prodigue, il nous la montre. C'est cette véritable repentance. C'est cette action de revenir vers le Seigneur et dire « Seigneur, oui, j'ai péché. » Il n'excuse pas son péché. Il ne cherche pas d'abellir les choses. Vous savez, il aurait pu dire, tu sais, Père, j'ai quand même découvert le monde. Hein ? J'ai vu des choses que toi, tu n'as jamais vues. Et peut-être que le Père aurait pu lui dire, oui, et tu sens des choses que moi, je n'ai jamais senties. Parce que si vous lisez bien le texte, il faisait quoi ? S'occuper de quoi ? Et si le père, il a été obligé à le vêtir, à lui remettre des chaussures, il était parti riche, mais il est revenu pauvre, misérable et nu. Quelqu'un disait dans la prière, « Seigneur, tu nous redonnes de la dignité. » Et encore une fois, c'est par grâce. C'est par grâce. Alors, Seigneur, quand il nous invite à changer, puisque l'apôtre dit de faire quoi ? Il est question pour nous de chercher les choses d'en haut, n'est-ce pas ? Et de penser à ce qui est en haut. À quoi pensez-vous toute la journée ? aux choses d'en haut ou aux choses d'en bas? Hein? Ou ça fait le yo-yo? Encore une fois, c'est vrai qu'en bas, on a des problèmes. Mais les solutions, elles sont en haut. Vous êtes d'accord? C'est vrai qu'en bas, c'est la pagaille. L'ordre est en haut. Je discutais cet après-midi avec quelqu'un qui m'a appelé depuis le nord, il était sous la flotte. Je disais courage. Courage. Le soleil brille. Il y a un moment où le soleil va briller, n'est-ce pas? Et on disait, me disait, quelle grâce, quelle espérance pour nous de savoir que le Seigneur revient bientôt. Parce qu'autrement, on aurait tendance à baisser les bras et de dire, il n'y a plus aucune espérance. Et le texte, il nous dit pas seulement de chercher, mais aussi de penser. Et je voudrais vous inviter à faire encore quelque chose. C'est que la parole de Dieu nous dit de nous asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Waouh ! Qui a besoin ce soir de s'asseoir avec Christ dans les lieux célestes ? Oui ? Il n'y a pas un meilleur endroit. Pourquoi ? Parce que les problèmes d'ici-bas, Dieu s'en charge. Croyez-le. Si vous saviez les solutions qu'il a, vous direz, oh mais qu'est-ce que je me suis pris la tête pendant des semaines, des mois, voire même des années pour régler un problème. Lui, il lui a mis 3 coups de cuillère et c'est réglé. Oui, parce que lui, il est Dieu. Nous, pas. Et il a des ressources que nous, on n'a pas. Mais il est question pour nous de vivre une vie pleine de nouvelles perspectives. Puisqu'il est question pour nous de penser aux choses d'en haut, il est question pour nous d'être assis dans les lieux célestes avec le Seigneur, il est question pour nous de chercher les choses d'en haut, alors j'aimerais terminer avec 3 références. La première se trouve dans le psaume 51. Puisqu'il est question de vivre d'une manière nouvelle, avec des perspectives nouvelles, voire même de changer de décor. Le psaume 51, le verset 12, dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Vous savez, on ne peut pas penser aux choses d'en haut si on garde notre tête d'ici-bas. Un jour, quelqu'un a dit qu'il faut avoir les pieds sur terre, mais la tête dans le ciel. Et pour que nous puissions arriver à comprendre ce que Dieu veut, ce que Dieu fait, on a besoin de demander au Seigneur, « Seigneur, crée en moi un cœur pur, que mes sentiments soient purs. Et Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, change ma vision des choses. » Deuxième chose, Romains chapitre 12, verset 2. Parce qu'il est question de changement de cœur, il est question de changement d'esprit, d'état d'esprit. Romains 12, verset 2, il nous dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » L'homme a de l'intelligence, sans doute. Mais souvent, cette intelligence a été empoisonnée par le mal. Et la tendance immédiate, c'est de répondre par le mal. Quand quelqu'un nous fait un tort, on essaie de trouver la manière de réagir et de répondre. Non pas en tournant la joue, mais en essayant d'en mettre une bien placée, une bonne droite ou gauche. Tout dépend, non ? Et là, la parole de Dieu dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ça veut dire que je ne réfléchis plus comme le monde m'amènerait à réfléchir, mais je réfléchis comme le Seigneur me demande de réfléchir. Et vous savez quoi ? C'est là qu'on trouve des solutions que le monde n'a pas. Qui a besoin de solutions ? Vous allez voir, vous allez ressortir de ce lieu, vous allez vous dire « Waouh ! Je rentre à la maison, je réécoute le message pour ne pas en louper encore une miette. » Parce qu'il est véritablement la seule solution, frères et sœurs, pour vivre autrement. Cœur pur, esprit bien disposé, renouvellement de l'intelligence. On termine, Colossiens chapitre 3, versets 9 et 10. Vous, qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle, qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alors il est question du cœur, il est question de l'état d'esprit, il est question de l'intelligence, mais il est aussi question de revêtir la nature nouvelle. Qui se renouvelle ? Ça veut dire que cette transformation, elle se produit jour après jour. Ne vous attendez pas, excusez-moi, à sortir de ce lieu d'être parfait. Excusez-moi, mes sœurs, si vous pensiez qu'en sortant de ce lieu, votre mari est parfait, excusez-moi, mes frères, si vous pensiez qu'en sortant de ce lieu, votre épouse est parfaite, c'est une erreur. Mais le perfectionnement se fait jour après jour. Et je crois aussi que dans la manière où Dieu nous a mis les uns à côté des autres, c'est pour que nous puissions nous aider dans ce perfectionnement. Amen. Parce que c'est de cette manière que Dieu a prévu de nous transformer. Et il est question pour nous, jour après jour, d'accepter, en vue d'une pleine connaissance, selon l'image de celui qui nous a créés. Qui est cette image ? Jésus. Alors vous voyez, quand ce fils prodigue rentre à la maison, le Père l'accueille. Quelle image merveilleuse. Vous savez, il y a plein de choses, mais je ne vais pas vous les partager ce soir, une autre fois. Mais juste vous dire que cette image merveilleuse de ce Père qui rétablit son fils, qui lui redonne des habits, une dignité, qui lui donne une place, qui lui redonne à quelque part, ce rôle de fils, il n'est pas entrant. Il aurait pu lui faire la morale, on est d'accord. Peut-être que nous, on l'aurait fait. Non ? Et après, il dit non, non. Il était perdu. Il est retrouvé. Quand on perd un enfant, même si c'était pendant 5 minutes au supermarché, on panique. Non ? Alors, je ne sais pas si vous réagissez tous de la même manière. Moi, j'ai vu des réactions différentes. Une fois, j'ai vu maman, le fils est arrivé, il était content de voir sa mère. Et sa mère, il y en a collé une directe. Pourquoi tu t'es éloigné ? Et après, elle l'a pris dans ses bras et elle n'arrêtait pas de l'embrasser. Le gamin, il ne savait plus où il en était. C'est étonnant, hein ? Et il y en a d'autres, mais les parents, ils étaient tellement contents de l'avoir retrouvé, ils lui ont acheté des bonbons. On est tous différents. Mais là, dans le cas présent, le Père, ce qu'il a voulu faire, c'était véritablement marquer la conscience de son fils. En lui disant, tu vois, tu t'es égaré, tu t'es perdu, tu as voulu goûter au monde, t'as goûté au monde. T'es revenu en miettes. On aurait pu te dire, oui, tu vas être serviteur parmi les serviteurs. Mais je te redonne la place de fils. Parce que vous savez, quoi qu'il arrive, Dieu sera toujours un Père, et un Père qui aime, un Père qui accueille, un Père qui accepte ce Fils qui était perdu et qui revient. Alors certes, il revient dans des conditions terribles, mais je crois que l'amour est là pour relever, l'amour est là pour redresser, l'amour il est là aussi pour transformer. Et certes, on pourrait, chacun d'entre nous, comprendre le discours du grand frère. On pourrait tous dire, oui, mais le grand frère, il n'a pas tort. Mais son père, il ne lui dit pas qu'il a tort. Il lui a dit juste, use de grâce. Amen. Use de grâce. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui fais preuve de grâce envers quelqu'un. Et demain, c'est toi qui auras besoin de grâce. Alors que nous soyons déjà revenus à la maison du Père. C'est vrai, quand on revient à la maison, on reprend certaines habitudes. C'est vrai ou pas? Hein? Moi, je vois quand nos enfants reviennent à la maison, ça reprend certaines habitudes de quand ils étaient plus jeunes. Hein? Les pots de Nutella qui disparaissent à grande vitesse. C'est les habitudes. C'est les habitudes. C'est comme ça. Mais ça prouve qu'ils sont à la maison. Le contraire, on se dirait, mais attends, c'est plus mon fils. C'est plus ma fille. Donc le Seigneur, il sait qu'on a certaines habitudes qui peut-être par moment, ils ont du mal à nous quitter. Mais avec son amour, il est capable de nous aider à changer. Alors je ne sais pas quelle est la condition de votre cœur ce soir. Peut-être vous-même, vous vous retrouvez dans l'histoire de ce fils qui a fait un choix à un moment de sa vie et qui revient. Et pour qui il est temps de dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alors je voudrais vous inviter à fermer les yeux. Et si quelqu'un voudrait dire au Seigneur, Seigneur, mon Dieu, mon Père, je reviens. Seigneur, je retourne à la maison finalement. Pardonne-moi pour mes erreurs. Si quelqu'un ce soir voudrait faire ce pas, c'est entre vous et Dieu. Moi, je voudrais vous inviter tout simplement à, non pas à lever la main ou autre chose, mais à répéter cette prière toute simple. Père céleste, Dieu de grâce, je viens à toi. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mes erreurs. Je reconnais mes égarements. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin, Seigneur, d'être lavé, transformé. J'ai besoin de Jésus comme Seigneur et Sauveur, à qui je donne mon cœur, je donne ma vie. Seigneur, je veux mourir à mon ancienne vie pour être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Aide-moi à abandonner toute cette vie du passé. Aide-moi à jeter derrière moi mes vieilles et mauvaises habitudes. Sépare-moi, Seigneur, de ce qui est le péché qui a toujours régné dans ma vie. Libère-moi, Seigneur, de mes passions. Seigneur, libère mes pieds et mes mains des chaînes qui me retiennent pour que je puisse... Oui, Seigneur, courir vers toi. Seigneur, merci de me laver par le sang de Jésus-Christ. Et merci pour le sacrifice de Jésus à la croix pour moi. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je veux t'appartenir aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.